Alors d'abord, je voudrais vous dire que je suis vraiment très touché de l'invitation qui m'a été faite de venir travailler avec vous aujourd'hui. J'en suis également très heureux parce que je ressens plus que jamais, en ce qui me concerne, le besoin de faire vivre des solidarités fondatrices. Je le ressens aussi parce que c'est vrai, je le dis parce que nous sommes entre compagnons et entre militants aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes parfois un peu seuls, que nous avons le sentiment de ramer à contre-courant, et qu'il est bon de pouvoir se retrouver et refaire vivre ces liens à la fois historiques et conjoncturels qui nous unissent. Alors, je vais essayer de vous parler sans langue de bois, de vous parler aussi de choses que je n'oserais jamais écrire, c'est-à-dire avec une vérité dans le propos qui peut-être choquera certains, que je n'oserais jamais écrire de peur d'être, entre guillemets, récupéré, mal utilisé, mal compris par des malveillants. Mais il n'y a aucun malveillant dans la salle. C'est la raison pour laquelle je vais me permettre de ne pas utiliser la langue de bois. Trois séries de remarques, si vous voulez bien, autour des militants que nous sommes. Une première série de remarques que j'ai intitulée « Des militants déniaisés ». Une deuxième série de remarques des militants recentrés et une troisième série de remarques des militants déterminés. Alors, des militants déniaisés d'abord. J'aimerais vous dire que, contrairement à un certain nombre de mes amis les plus proches, je ne suis pas de ceux qui pensent que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes de l'éducation nationale, par exemple. Je pense que oui, il y a une baisse du niveau. Et que, à force de nier l'évidence, on se discrédite et on se ridiculise. Alors cette baisse du niveau n'est pas globale, elle n'est pas dans tous les domaines, elle n'est pas partout, mais elle existe. Elle existe dans des domaines où on l'a particulièrement mise en évidence, comme l'orthographe grammaticale, mais elle existe dans une série d'autres domaines, comme les repères historiques, comme les repères culturels, etc. etc. C'est pas en se cachant derrière notre petit doigt et en continuant à dire qu'il n'y a pas de baisse de niveau, qu'on fera en sorte que les étudiants à l'université fassent des dissertations sans faute d'orthographe et soient capables de manipuler correctement le français à l'écrit, par exemple. Je voudrais dire que oui, il y a des établissements difficiles où même les militants pédagogiques que nous sommes ne mettraient pas systématiquement leurs enfants. Ça a été dit par un collègue ce matin, et c'est vrai. Il y a des établissements qui sont de vrais barils de nitroglycérine, dont on ne sait pas s'ils pourront subsister encore longtemps et dont on ne sait pas s'il ne faudra pas payer très cher des mercenaires bientôt pour pouvoir y enseigner. Je voudrais dire que oui, il y a eu des caricatures de l'éducation nouvelle, que ces caricatures nous ont particulièrement desservis, qu'il y a eu des amalgames, entre une certaine forme de libertarisme et l'éducation nouvelle. Je ne dis pas mai 68. Mai 68, c'est autre chose. C'est un mouvement historique que l'idéologie ambiante a tendance à confondre avec le libertarisme et dont on ne voit pas l'extraordinaire richesse et complexité. Je parle du libertarisme. Je pense par exemple que les CMEA ne se sont jamais complètement reconnus dans Libres Enfants de Sommerhill, même si on a tous été fascinés par Libres Enfants de Sommerhill. Mais néanmoins, la confusion entre le fait que l'éducation nouvelle se réduise à Libres Enfants de Sommerhill nous a fait beaucoup de mal. C'est une confusion grave et je crois qu'il faut sortir de cette confusion. Je crois que oui, et Pierre Parlebas l'a souligné ce matin, il y a une inflation d'une didactique technocratique et jargonneuse qui n'a rien à voir avec les principes de l'éducation nouvelle et qu'on a voulu nous coller sur le dos. Cette inflation d'une didactique technocratique et jargonneuse a même, dans un certain nombre de disciplines, contribué, et il faut l'avouer, à la baisse d'un certain type de niveau, en particulier en matière d'exigence culturelle. Alors vous voyez que je ne fais pas dans le pédagogiquement correct, en commençant comme cela. Pour autant, je ne dis pas que le passé est merveilleux. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent qu'il faut revenir à l'époque idéale et au temps béni, où les enfants obéissaient, selon un beau lapsus récent du ministre de l'Éducation nationale, à la loi et à l'œil. Hein ? Je ne pense pas qu'il faut revenir à cette époque-là. Mais je pense que dans les 10 dernières années, moi-même et beaucoup d'autres collègues, militants pédagogiques, compagnons, nous avons été sur une position beaucoup trop défensive. C'est-à-dire que nous avons été même amenés au fond à défendre en permanence l'état actuel du système comme si nous en étions responsables et comme si ce système avait réalisé ce qui étaient nos idéaux. Je pense à l'école en particulier. Ce qui fait qu'un grand nombre de militants pédagogiques, face aux attaques de tous les déclinologues et de tous les gens qui stigmatisaient la baisse du niveau, etc., se sont mis dans une posture qui consistait à dire « mais non, tout va bien, le niveau n'est pas si mauvais que ça, les jeunes ne posent pas de problème, les classes fonctionnent bien, etc. » Moi, je crois que nous nous sommes trompés de stratégie. Il y a des classes qui fonctionnent mal, il y a des collègues qui n'y arrivent pas, il y a des situations éducatives qui sont désespérées et il y a des gamins qui agissent d'une manière absolument intolérable et insupportable. Voilà. Et qu'il faut l'assumer, tant pis si on est, entre guillemets, provisoirement récupéré par des adversaires. Il faut l'assumer, mais il faut aller jusqu'au bout dans ce qu'on assume. Par exemple, il faut l'assumer en montrant que, comme cela a été dit dans un des ateliers auxquels je participais ce matin, d'une part, la pédagogie et l'éducation nouvelle n'a jamais été aux commandes, ni dans l'éducation nationale, ni dans l'éducation, on va dire, des tiers-lieux éducatifs. Elle y a été présente, plus ou moins, plus dans le péri, le para et l'extrascolaire que dans le scolaire, mais elle n'a pas été décisionnelle, même s'il y a eu à certains moments des avancées importantes que nous avons à saluer, à reconnaître et dans lesquelles nous nous sommes reconnus. Même si un certain nombre d'entre nous, à titre personnel, avons pris part politiquement à ces avancées, il serait, me semble-t-il, un peu absurde d'imaginer que l'éducation nouvelle a dirigé l'éducation nationale pendant 30 ans, pendant 20 ans, depuis 80 ou depuis Louis le Grand, et qu'elle est donc, en tant que telle, responsable de l'état actuel du système. Si on accepte d'être dans cette posture-là, on est perdu, parce que c'est faux que l'éducation nouvelle a été au levier de commande pendant 30 ans, et donc c'est faux qu'elle est responsable de l'état actuel du système. Et c'est faux que nous devions nous arc-bouter dans une posture de défense du système, et à tel point que nous en venons à manquer d'agressivité, c'est-à-dire nous en venons à ne plus avoir cette espèce d'insurrection fondatrice au nom du fait qu'au fond, nous défendons quand même globalement le statu quo, en tout cas nous sommes perçus comme tels. Et moi-même, en tout cas, je le dis ici très librement, j'ai souvent été, alors que je me vivais comme un insurgé, perçu comme un défenseur du statu quo. D'ailleurs, il défend le statu quo, parce qu'il défend l'éducation nouvelle, et c'est l'éducation nouvelle qui est aux commandes. C'est un malentendu. Impossible de laisser penser ce genre de choses. L'éducation nouvelle n'a pas été aux commandes de l'éducation nationale, ni même de l'éducation non formelle en France. Elle n'est donc pas responsable de la situation actuelle du système éducatif et scolaire. Et nous n'avons pas à nous défendre en expliquant que ce système est mieux, etc., etc. Mais en même temps, nous avons à faire émerger le contexte dans lequel nous sommes. Ce contexte a été plusieurs fois identifié, on a prononcé l'expression célèbre de montée des individualismes. Bien sûr qu'il y a une montée des individualismes. Moi, je définis ce système, à la fois dans le petit ouvrage que vous avez eu la gentillesse de citer, et puis dans des travaux que j'ai effectués depuis. Je définis cette montée des individualismes plutôt en reprenant l'expression de Bernard Stiegler, qui parle de l'explosion de ce qu'il appelle le capitalisme pulsionnel. Hein, Stiegler existe, qui a eu un premier âge du capitalisme, qui était le capitalisme industriel, un deuxième âge qui a encore de l'avenir devant lui, qui est le capitalisme financier, mais que nous voyons émerger actuellement un troisième âge du capitalisme, qui est le capitalisme pulsionnel. Qu'est-ce que le capitalisme pulsionnel pour Stiegler ? C'est un système d'organisation socio-économico-médiatique qui est fondée sur la réalisation immédiate de la pulsion et qui fonctionne à la pulsion d'achat comme nos voitures fonctionnent à l'essence. C'est-à-dire qui susurre en permanence à la fois aux enfants, mais aussi aux adultes, « Fais ton caprice, ça fait marcher le commerce ». C'est un capitalisme qui est en permanence en train d'exploiter ce qu'il y a de plus infantile chez l'individu. C'est un capitalisme qui érige le passage à l'acte en mécanique fondamentale, substrat même du développement du commerce et de la société. Bernard Stiegler, dans son dernier livre, qui est paru il y a quelques jours, s'appelle « Prendre soin de la jeunesse et des générations », parle même, quand il analyse ce capitalisme pulsionnel, d'une manière extrêmement dure, de destruction radicale de l'appareil psychique juvénile. Il dit « destruction radicale de l'appareil psychique juvénile ». En disant « ce qui est en train de se passer avec l'exploitation de l'enfance comme prescripteur d'achat, cœur de cible, ce qui est en train de se passer avec la montée en puissance de tous les systèmes de surstimulation, de surattention, de surinformation, de surinvestissement, etc., etc., détruit l'appareil psychique juvénile et rend impossible le travail éducatif qui relève précisément du sursis à la pulsion et de la construction du désir, du sursis à l'acte pour la construction de la réflexion, du sursis à l'immédiateté pour la construction de l'esprit critique. Alors je crois qu'il faut être lucide sur la montée de ce capitalisme pulsionnel, et il faut en même temps bien comprendre que la montée de ce capitalisme pulsionnel engendre un certain nombre d'attitudes chez les jeunes aujourd'hui, chez les petits et les moins petits, jusque chez les adolescents et les jeunes adultes, face auxquelles notre société prend peur. Et que c'est là le nœud, me semble-t-il, de ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Nous avons joué à l'apprenti sorcier et nous avons déclenché des comportements chez les enfants qui nous inquiètent, qui nous effraient, qui nous paraissent presque à la limite de la barbarie. Et c'est vrai que certains sont à la limite de la barbarie. Le happy slapping, c'est de la barbarie. Et devant lesquels nous mobilisons la seule hypothèse qui nous paraît acceptable, c'est-à-dire la contention disciplinaire, chimique ou hypnotique. J'ai eu l'occasion de dire et de répéter peut-être plusieurs fois, excusez-moi si vous me l'avez déjà entendu dire, que une des meilleures manières de résumer ce qui se passe sous nos yeux dans la société à l'égard de la jeunesse aujourd'hui, c'est cette formule « liberté totale pour les marchands d'excitants, répression absolue pour les excités ». Liberté totale pour les marchands d'excitants, répression absolue pour les excités. Tout se passe comme si nous avions joué avec le feu, produit des enfants qui sont effectivement beaucoup plus excités, beaucoup moins attentifs, beaucoup plus dans le passage à l'acte, clivés, appartenant à des groupes qui fonctionnent souvent sur le modèle tribal, et que face à cela, que nous avons nous-mêmes produit, et faute de vouloir réinterroger et réexaminer nos modes de fonctionnement fondamentaux, nous développions des systèmes de repérage, de dépistage, de répression, etc., etc., de contention sous toutes ses formes, parce que nous prenons peur devant les comportements que nous avons sécrétés. C'est la caractéristique de ce qui est en train de se passer sous nos yeux, pour moi, de ce que j'appelle, comme d'autres, le libéralisme autoritariste. L'autoritarisme n'étant pas le contraire du libéralisme, mais son corollaire absolument nécessaire. Dès lors que le libéralisme est un système qui libère les pulsions individuelles, il a besoin systématiquement et corollairement d'endiguer ses pulsions pour ne pas faire exploser le contenant social dans lequel il s'exprime. C'est-à-dire que le libéralisme met en quelque sorte une pression telle aux individus que ces individus se comportent d'une manière qui menace la cohérence sociale. Et pour restaurer sa cohérence sociale, dès lors que le libéralisme ne veut pas s'interroger sur ses principes, c'est-à-dire sur ce qui le fonde en tant que libéralisme, il rajoute à ce libéralisme la contention disciplinaire. Je pourrais, si j'avais le temps, prendre l'exemple sur ce point d'un élément sur lequel je travaille depuis 6 mois, qui est la question de la montée dans tous les pays occidentaux du dépistage de l'hyperactivité des enfants excités ou turbulents. Bon. Nous sommes devant un phénomène d'une limpidité absolue. Il y a de plus en plus d'enfants hyperactifs que l'on détecte en faisant passer les fameux tests de Conners, qui sont des tests dont je pourrais vous parler longuement, que je connais très bien, et qui sont des tests dont je pourrais vous montrer l'absolue nullité psychologique et pédagogique, mais qui permettent de situer l'enfant à l'intérieur de la fameuse échelle américaine du DMS-4, et à partir de là, d'identifier des enfants turbulents, hyperactifs, agités, excités, pour leur proposer, non pas un nouvel environnement éducatif, non pas de faire du sport, de s'investir dans le théâtre ou de métaboliser leur activité dans la culture ou dans quoi que ce soit, mais pour leur proposer de devenir des consommateurs dès l'âge de 3 ans, puisque c'est l'âge auquel on prescrit, de Ritaline ou de Concerta. Nous ne sommes pas là devant un phénomène anecdotique, nous sommes là devant un phénomène extrêmement révélateur de ce qui est en train de se passer. Nous choisissons de traiter l'excitation, l'hyperactivité et l'ensemble des comportements qui effectivement dynamitent les structures scolaires traditionnelles par, non pas la recherche de nouveaux environnements éducatifs ou de nouvelles activités susceptibles de permettre aux enfants de changer de comportement, mais nous développons une sorte de système de camisole chimique qui nous permet de les maintenir dans le cadre de l'acceptable et de continuer à faire fonctionner, sans l'interroger, le capitalisme pulsionnel. Alors, il n'y a pas que l'hyperactivité, il y a tous les systèmes de dépistage précoce des délinquants, de biologisation et de médicalisation systématique de l'échec scolaire, de repérage, de filiarisation, de surveillance sous toutes les formes et sous tous les modes, d'exclusion, et ainsi de suite. Tout cela constitue un contexte général dans lequel, au fond, ceux et celles qui plébiscitent les systèmes de retour, entre guillemets, parce que je ne sais pas, c'est pas un retour à l'autorité, le font avec une certaine bonne foi et souvent mû par une réelle angoisse. Moi, je rencontre beaucoup de parents dans des lieux difficiles qui ont peur devant les comportements de leurs enfants, qui ne savent pas comment faire, qui sont complètement perdus devant ce qui se passe et ce qu'ils voient, et qui se disent qu'après tout, l'autorité, sous une forme ou sous une autre, pourrait bien venir résoudre tous leurs problèmes. Je crois qu'il y a une réelle angoisse de notre société devant sa jeunesse et devant ce que le libéralisme pulsionnel a sécrété chez sa jeunesse, et que l'autoritarisme se nourrit de cette angoisse, y compris pour enrôler un certain nombre de gens qui ne sont pas a priori des gens ni réactionnaires, ni conservateurs, ni autoritaristes, ni même qui n'ont pas la fibre autoritaire traditionnelle, mais qui simplement se disent « mais bon sang de bois, d'accord, à l'époque des années 50, où la société était très normée, il fallait développer des enclaves libertaires, mais aujourd'hui, où la société est hyper libertaire, il faut développer des enclaves très normées. Bon. » Et au fond, les gens qui développent ce discours le font pas toujours dans une perspective réactionnaire. Ils le font parfois dans une perspective de simple rétablissement de l'équilibre. C'est vrai que l'immense majorité des intellectuels dans la première moitié du XXe siècle considérer l'école comme le lieu de ce qu'on appelait les pédagogies noires, très normées, ces collèges jésuites infernaux, ces internats où se passaient des choses terribles, etc. Et que par rapport à ça, Summerhill, c'était l'enclave libertaire qu'il fallait faire exister contre la prégnance d'un modèle normatif. Et c'est vrai que les mêmes intellectuels, ou leurs prolongements, parisiens la plupart du temps d'ailleurs, considèrent que dans un système très dénormé, c'est-à-dire où il n'y a plus ni familialement, ni socialement de normes, eh bien, le retour à des enclaves extrêmement normatives fonctionnera comme une sorte de régulation thermostatique nécessaire. Et nous sommes là devant un contexte sur lequel j'aimerais que nous réfléchissions plus pour bien comprendre l'attraction que peut avoir le modèle autoritaire, on va dire, ultra-normatif sur nos contemporains, et je vais même aller très loin, sur aussi la gauche, ou une bonne partie de la gauche française, qui est dans la même posture, qui prend peur devant le comportement d'un certain nombre des enfants de France et d'ailleurs, et qui se dit qu'après tout, revenons à. Voilà pour le contexte. Deuxième série de remarques, quand le pédagogue a été un peu déniaisé, il lui faut se recentrer. Alors, se recentrer sur quoi ? Moi, je fais partie de ceux qui pensent, mais je suis très minoritaire, bien sûr, qu'il faut se recentrer sur la pédagogie. Alors, la pédagogie, c'est un problème, parce qu'on ne sait pas bien qu'est-ce qu'on met derrière ce terme. Alors, vous savez, le pédagogue, c'est celui qui accompagne l'enfant dans la Grèce antique, c'est un esclave qui accompagne l'enfant et qui lui fait découvrir à la fois l'école et le monde. Mais si on sort de l'étymologie, le mot pédagogie a surtout été introduit dans la pensée, dans les conceptions contemporaines par Durkheim, qu'il a défini comme une théorie pratique, c'est-à-dire une sorte de théorie des pratiques éducatives. C'est une définition acceptable, mais qui ne nous fait pas beaucoup avancer. Jean Housset, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets et avec qui j'ai beaucoup travaillé, définit la pédagogie comme la capacité à articuler dans un même discours des exigences, on va dire, de cohérence théorique et des exigences de mise en œuvre pratique. Il dit, par exemple, à juste titre, donc Kant ou voire Rousseau ne sont pas des pédagogues parce qu'ils restent des théoriciens de l'éducation, mais ils ne prennent pas en compte les exigences pratiques de l'éducation et le fait qu'on est contraint à agir en éducation et à agir concrètement. Qu'on a des enfants, on a tous des enfants, enfin, soit nous, soit par personne interposée, qu'on a quelque temps dans les bras avant de les avoir très vite, vous le savez bien, sur les bras. Alors, Housset a assez raison, je crois, de dire que la pédagogie associe la cohérence théorique, autant que faire se peut, et l'opérationnalisation pratique, et tente de travailler sur les deux. Et je me retrouve parfaitement à cet égard dans ce qu'a dit Bernard Curté sur les types de recherches qui ont été impulsés par Jean Foucambert et l'AFL, que j'ai à l'époque tenté de beaucoup défendre, que je n'ai pas réussi à sauver, en tout cas pas autant que je l'aurais voulu, mais qui me paraissent parfaitement nécessaires encore aujourd'hui. Néanmoins, en définissant la pédagogie comme ça, il me semble qu'on ne va pas jusqu'au bout. Pour comprendre ce que c'est que la pédagogie, je pense qu'il faut remonter encore un peu dans l'histoire et identifier qui ont été véritablement ce qu'on peut nommer les précurseurs, les pédagogues. Ce sont au fond à peu près tous ceux qui ont été confrontés à des gens qui, à un moment ou à un autre, étaient considérés comme des inéducables. Les deux grandes figures de la pédagogie, pour moi, qui apparaissent quasi simultanément à un an près dans leurs écrits au XVIIIe siècle, sont Itard, avec Victor de l'Aveyron, qui décide qu'il va pouvoir l'éduquer alors que tout le monde dit que c'est un incurable, un arriéré définitif, un débile définitif. Et c'est Pestalozzi à Stams qui décide qu'il va pouvoir éduquer les enfants de Stams alors que tout le monde pense que ce sont des gens qui sont socialement perdus et inéducables eux aussi, non pas pour des raisons biologiques, mais pour des raisons sociales. À peu près à la même époque, l'un et l'autre, Victor d'un côté, les enfants de Stams de l'autre, Itard et Pestalozzi, se disent « on va réussir à éduquer les inéducables ». On va réussir à éduquer ceux dont personne ne veut, ni du côté du psychologique, ni du côté du sociologique. Et ils se donnent des moyens pour y parvenir. Qu'ils y parviennent, bien ou pas bien, c'est une autre question. On peut encore discuter sur le fait de savoir pourquoi Itard n'est pas vraiment parvenu à faire parler Victor. Il y a des gens qui pensent qu'il s'est mal pris, qu'il aurait pu y parvenir. D'autres qui pensent que c'est parce que Victor avait des lésions cérébrales irréversibles. Tout ceci est encore objet de débat. Mais en tout cas, on ne peut pas nier que ce qui les a constitués, ces deux hommes-là, c'est précisément ce pari de l'éducabilité sur les inéducables. Reste que le pari de l'éducabilité sur les inéducables, si on s'en tient là, je ne suis pas sûr qu'on définisse complètement la pédagogie. Parce qu'on voit bien que le pari de l'éducabilité peut devenir assez rapidement la manipulation. Et la modernité nous donne précisément la possibilité de faire de l'éducabilité une manipulation. C'est la grande leçon de toutes les fictions romanesques, que ce soit 84 d'Orwell, Meilleur des mondes, voire Robocop ou d'autres, j'en sais rien, que de nous montrer à quel point un projet éducatif peut devenir fou dès lors qu'il postule la malléabilité complète des personnes et qu'il décide d'utiliser absolument tous les moyens pour y parvenir. Après tout, dès lors que les gens sont éducables, il n'y a qu'à les mettre sous électrode, et puis ils apprendront bien à lire. C'est la raison pour laquelle je définis la pédagogie comme l'intégration de la question du sujet dans l'éducabilité, c'est-à-dire comme la capacité à comprendre que le principe d'éducabilité n'est viable que s'il est associé au principe de liberté, c'est-à-dire que si on affirme simultanément que tout le monde peut apprendre et grandir, mais que nul ne peut contraindre quiconque à apprendre et à grandir. Voilà quelque chose qui pour moi est absolument fondamental, parce que cette double exigence nous donne un rôle très spécifique, qui est celui de créateur de médiation et de situation. Et je m'inscris totalement dans le cadre théorique de Pierre Parlebas ce matin, dès lors qu'on affirme qu'on doit éduquer, mais que l'éducation n'est pas un dressage, alors nous sommes dans un autre type de registre qui est la construction de situations et de médiations éducatives. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que nous sommes menacés, me semble-t-il, par l'hégémonie d'un modèle qui n'est pas pédagogique, mais qui est médical. Je ne suis pas du tout contre la médecine, mais je suis contre l'hégémonie du bonnel médical en éducation. Or, je crois que ce modèle médical est en train, à travers les enfants hyperactifs, mais pas seulement, de devenir un modèle extrêmement puissant. On soigne l'échec scolaire. Quelle est la différence entre le modèle médical et le modèle pédagogique? Caricaturons un peu les choses, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais disons que ce qui caractérise le modèle médical, c'est la recherche du symptôme et la recherche du remède. Et c'est l'idée que quand on a bien compris le symptôme, on a identifié le remède. Et que le remède est dans le symptôme comme la noix dans sa coquille. En quoi ce modèle est-il dangereux en éducation ? Eh bien, il est dangereux en éducation parce qu'il présuppose d'abord un traitement strictement individuel des difficultés, ensuite parce qu'il présuppose qu'il suffirait d'avoir une sorte de connaissance a priori de l'élève pour identifier ce qu'on n'appellera pas remède mais la remédiation de l'élève ou de l'enfant qui va lui apporter la solution. Or, ce qui caractérise la pédagogie comme pratique, c'est que ce n'est pas la connaissance de l'enfant qui permet d'agir sur lui, c'est l'action avec l'enfant qui permet de le connaître. C'est-à-dire, c'est en proposant à l'enfant des activités qu'on découvre ce qu'il peut donner et ce qu'il peut faire. Et c'est parce qu'on les lui propose, et pas parce qu'on attend de les lui imposer comme des remédiations, qu'on l'aide à grandir. J'ai beau analyser par tous les moyens un blocage scolaire, je ne trouverai pas dans l'origine du blocage les moyens de le surmonter. Les moyens de le surmonter, ils sont dans l'invention pédagogique, ils sont dans la créativité pédagogique des maîtres. C'est Makarenko lui-même, il a été cité plusieurs fois, y compris récemment, après vous, par Bernard, qui écrit, et ce texte est de 1923, vous imaginez, Il écrit ceci à propos de la colonie et des délinquants qu'il accueille dans la colonie. Il écrit « J'estimais que la méthode de rééducation des délinquants devait avant tout prendre pour fondement l'ignorance complète du passé et à plus forte raison des délits passés. Mais appliquer ce principe en toute rigueur, c'est à quoi je n'arrivais que très difficilement moi-même. J'étais toujours tenté de savoir pourquoi un enfant nous était envoyé et ce qu'il avait bien pu faire pour cela. En outre, c'était en 1922. La logique habituelle de la pédagogie s'évertuait alors à singer celle de la médecine et ratiociner en prenant l'air intelligent. Pour soigner la maladie, disait-on en 1922, il faut d'abord la connaître. Ce genre de logique, ajoute Makarenko, qui m'avait parfois séduit, tenait en particulier sous son charme mes collègues et le personnel de l'instruction publique. La commission des mineurs délinquants nous envoyait les dossiers des pupilles avec tout le détail de leurs interrogatoires, confrontations et autres fatras censés nous aider à étudier la maladie et à mieux agir sur eux. À la colonie, j'avais réussi à ranger à mon avis tous les éducateurs et dès 1922, je priais la commission de ne plus m'envoyer aucun dossier. Nous cessâmes de la façon la plus sincère de nous intéresser aux fautes passées des colons et le résultat fut si heureux que les colons eux-mêmes les oubliaient rapidement. Je m'en réjouis vivement, voyant s'effacer graduellement au sein de la colonie tout intérêt pour le passé et disparaître de notre vie les reflets de jours pour nous pleins d'opprobre, douloureux et exécrables. Sous ce rapport, et ça c'est génial je trouve, sous ce rapport nous atteignîmes l'idéal pédagogique jusqu'aux nouveaux colons qui se trouvaient gênés de raconter leurs exploits de délinquants. Voilà. Et qui devenaient fiers de ce qu'ils construisaient plutôt que de ce passé dans lequel on les enfermait et qu'ils racontaient à satiété. Or, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement devant un retour du modèle médical en éducation au détriment du modèle pédagogique et que ce retour du modèle médical nous attaque tous à l'école, bien sûr, où on va faire du dépistage, mais où on va aussi faire en permanence des évaluations quasiment systématiques, les publier sur Internet, chercher des systèmes de remédiation, etc., etc. C'est également en train de nous individualiser complètement les choses et de nous faire perdre tout imaginaire pédagogique et créatif. Parce qu'il n'y a plus d'imagination pédagogique et créative dès lors qu'on est dans le couple indéfiniment multiplié, diagnostic-remède. Et c'est pourquoi je considère qu'un des objectifs sur lesquels il nous faut aujourd'hui nous fixer, c'est bien l'articulation du « je » et du « nous », c'est bien la capacité d'instituer du collectif, et du collectif éducatif. Instituer du collectif qui éduque. Contre ce que nous avons souvent à voir dans les écoles, ce que je vois presque toutes les semaines, c'est-à-dire une espèce de coagulation des individualismes. Cette coagulation, même je la vois physiquement, une cinquième qui entre en classe, c'est une espèce de coagulation d'élèves qui s'installe n'importe comment. Il n'y a aucun collectif structuré là-dedans. Il n'y a rien de collectif. Il n'y a rien d'institué. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de structure, il n'y a rien qui commence à apparaître comme susceptible de pouvoir donner à chacun un espace où exister en fonction des autres et à partir des autres. Alors, si je me permets d'insister sur ce point, c'est pour dire que le pédagogique est plus que jamais d'actualité. Et que lutter pour le pédagogique, c'est lutter contre un système qui est un système, au fond, extrêmement béhavioriste, qui est un système dépistage, remédiation, triage, etc., etc., pour se redonner l'autorisation d'inventer, pour se redonner l'autorisation de proposer, de créer des espaces, de créer des lieux, de créer des moments, de créer des outils qui sont des occasions pour l'enfant de grandir. Troisième série de remarques, le pédagogue déterminé. Cette proposition, mais c'est des propositions évidemment très polémiques, Vous avez vu que j'ai fait vraiment délibérément dans le polémique. Première proposition, s'autoriser la colère. Alors, s'autoriser la colère et s'autoriser de sortir à la fois de la langue de bois et des faux problèmes. En disant, l'éducation nouvelle, oui. L'éducation nouvelle, est, a toujours été, et milite d'une manière farouche pour l'autorité contre le caprice. L'autorité, c'est nous. Il faut le dire avec clarté. Il faut arrêter, à mes yeux, d'avoir le moindre scrupule de ce côté-là. L'autorité, c'est nous. D'ailleurs, rien n'est moins autoritaire que la classe traditionnelle, où dans une espèce de consensus totalement hypocrite, chacun fait semblant d'être là en étant totalement ailleurs. L'autorité, c'est nous. Oui, nous sommes pour l'autorité, et nous sommes pour une vraie autorité. Et on doit le dire, et arrêter de fuir en disant « non, l'autorité, etc. » Nous sommes l'autorité. Bon, point, premier point, de ce qu'il faut dire de manière colérique. Il faut dire aussi « oui, nous sommes pour l'éducation civique ». Évidemment qu'on est pour l'éducation civique, contre l'idéologie du maillon faible, c'est-à-dire contre l'idéologie de l'arrivisme systématisé. Oui, nous sommes pour la construction du collectif contre l'individualisme. Le collectif, c'est nous. Oui, nous sommes pour des rituels structurants contre les coagulations d'individus indifférenciés. Et les rituels structurants, nous les connaissons. Nous y avons travaillé. C'est notre histoire, les rituels structurants. C'est notre histoire aussi bien chez Makarenko, dans la pédagogie sportive. C'est notre histoire. Nous avons une expérience là-dessus. Et on est pour les rituels structurants. Hein, de dire encore « oui, nous sommes pour la culture et contre le crétinisme médiatique ». Et la culture, c'est nous, c'est pas le reste. Oui, nous sommes pour l'effort et contre la facilité. Et il faut arrêter de s'embêter avec ça. C'est pas la peine de faire semblant, de tergiverser. Oui, on est pour l'autorité, on est pour l'effort, on est pour la culture, et on est à peu près les seuls à l'être, hein, parce que tous les autres sont dans une hypocrisie totale sur ces questions-là. Bon. Moi, c'est... m'autoriser cette colère-là. Voilà, je m'autorise cette colère, j'ai fait mon moment de colère. Deuxième piste, récuser l'instrumentalisme. Et en particulier, alors je vais encore vous choquer, arrêtez de dire que l'idéal républicain, c'est la liberté pédagogique. L'idéal républicain, c'est pas la liberté pédagogique, c'est la pédagogie de la liberté. Ce qui n'a strictement rien à voir. La liberté pédagogique serait la possibilité, comme cela a été formulé récemment par le président de la République, de donner à chacun l'autorisation d'utiliser n'importe quel moyen pourvu qu'il obtienne des résultats quantifiables. Non mais attendez, n'importe quel moyen pourvu qu'il obtienne des résultats quantifiables? Attendez, c'est pas de l'éducation ça. Une chose qui m'a beaucoup gêné dans le débat sur la méthode globale, comme Pierre Parlebas, c'est que même mes copains qui étaient contre le retour à la syllabique se battaient sur le terrain de l'efficacité en disant « la syllabique, elle n'est pas efficace ». Non mais d'accord, elle n'est pas efficace la syllabique, oui, mais moi je m'en fous à la limite qu'elle soit efficace ou pas. La syllabique pourrait bien être efficace si en même temps qu'elle apprend à lire, elle assujettit l'élève et construit avec elle un rapport à l'écrit qui est un rapport qui n'est pas un rapport de liberté, mais qui est un rapport d'assujettissement, elle n'est pas une bonne méthode. Qu'est-ce que c'est que cette affirmation que dès lors que ce serait efficace, ce serait bien? Et dès lors surtout que ce serait efficace, dans la perspective de la quantification qui nous est imposée. Une des hypothèses que je fais, qui n'est pas tout à fait l'analyse exacte dont parlait Zara tout à l'heure, des nouveaux programmes du primaire, c'est qu'un des objectifs de ces nouveaux programmes, c'est de permettre des évaluations behavioristes. C'est-à-dire de permettre la réduction de la culture scolaire à la culture marchande. C'est-à-dire de permettre la mise en concurrence des écoles. C'est-à-dire de nous imposer d'abdiquer tous nos objectifs qui ne sont pas quantifiables et évaluables. C'est-à-dire de nous imposer d'abdiquer tout ce qui, précisément, ne peut pas être mesuré. Donc récuser l'instrumentalisme, c'est pas parce que les choses sont efficaces qu'elles sont bonnes. Et c'est pas parce qu'elles sont efficaces en termes de tronc commun, de socle, de je ne sais trop quoi, qu'elles sont nécessairement bonnes. La pédagogie de la liberté, oui, la liberté pédagogique, si c'est pour fabriquer des élèves qui seront essentiellement des petits perroquets, non. Troisième élément, et ça a été évoqué dans l'atelier où j'étais ce matin, troisième perspective, entre les mouvements d'éducation populaire, entre les militants de l'école, entre les collectivités territoriales, il me semble extrêmement important de trouver alors ce que je vais appeler le bon maillage pour délibérer du bien commun. Parce que ça, c'est un des vrais problèmes de nos démocraties. C'est que il y a une montée de l'individualisme, on l'a dit, il y a un regret ou une attitude, une posture qui consiste à dire le bien commun est abandonné au profit de la recherche individuelle de ses propres stratégies. Ceci dit, où on va fabriquer du bien commun et comment ? On voit bien que c'est ça qui fait problème dans notre société. C'est à quel endroit, à quel maillage les gens peuvent-ils se rencontrer pour mettre en commun leurs intérêts individuels, qui, je vous le rappelle, sont tous légitimes, mais utiliser le presse-purée institutionnel pour en sortir quelque chose qui va plus loin que la somme des intérêts individuels et qui est le bien commun. Je raconte parfois une anecdote, elle va être très courte, mais parmi mes activités, je suis président d'honneur d'un conseil municipal d'enfants. Et au cours d'une récente séance de ce conseil municipal, on débattait de la question de la cantine scolaire. C'est une question très épique, hein, une question sur laquelle on peut d'ailleurs traiter de nombreux sujets, ça va des rapports nord-sud au traitement des personnels précaires, en passant par les problèmes de nutrition, d'insonorisation, de choix de ses copains, etc. Et chacun arrivait avec ses revendications, qui voulait des frites tous les jours, qui voulait choix entre pamplemousse et crevettes, etc. etc. Et nul ne voulait à aucun moment abandonner ces revendications. Alors là, j'ai pris une métaphore qui m'est venue à l'esprit parce que je discutais avec ces gamins de la cantine. Je leur ai dit, vous me faites penser à des gens qui voudraient faire une purée sans lâcher leurs pommes de terre. Voilà. Là, chacun veut fabriquer quelque chose, mais chacun veut rester avec... Alors, qu'est-ce que c'est qu'une institution ? C'est un presse-purée. Hein. C'est-à-dire, c'est un truc où chacun met une patate, mais accepte de la lâcher, pour qu'au bout du compte, il y ait quelque chose de différent qui s'appelle de la purée, où on ne va pas pouvoir retrouver sa pomme de terre, parce que vous ne retrouverez pas votre pomme de terre dans la purée, mais où vous pourrez retrouver une part dans quelque chose qui s'appelle le bien commun. Alors, je dis notre société manque de presse purée. C'est-à-dire que, non, mais je le dis très sérieusement, ce que nous avons à trouver, c'est où et comment faire fonctionner des presse purées. C'est-à-dire où ou comment faire fonctionner des gens qui se mettent ensemble pour fabriquer, pour dire voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, et voilà à partir de ça, si on lâche et qu'on fait tourner la moulinette, quel est le bien commun auquel on peut parvenir ? Troisième objectif. Quatrième objectif, quatrième perspective, il me semble qu'il est temps que les mouvements d'éducation populaire s'intéressent bien évidemment et continuent à s'intéresser à l'école, s'intéressent et continuent à s'intéresser au scolaire, au parascolaire, à l'extrascolaire, au périscolaire, aux loisirs, etc., mais qu'il y a d'autres domaines sur lesquels ils ne peuvent pas ne pas investir. J'en pointe au moins deux qui me paraissent absolument fondamentaux, l'éducation à la parentalité, la formation à la parentalité, et la question des médias sous toutes leurs formes. La question de la parentalité est tout à fait fondamentale. On ne pourra pas éluder cette question. On ne pourra pas éluder cette question longtemps. C'est une question qui devient très difficile. Non pas parce que les parents sont démissionnaires. Je ne crois pas un instant que les parents soient démissionnaires. Je crois que les parents sont dépassés. Et ils sont dépassés parce qu'ils n'ont pas dans leur sac à dos les moyens de résoudre les problèmes que leur posent leurs enfants. Les parents dans les sociétés traditionnelles, il n'y a encore pas très longtemps, utilisaient avec leurs enfants les solutions que leurs parents avaient utilisées avec eux. Aujourd'hui, le parent qui... à la question de savoir à quel âge il faut acheter un téléphone portable, quel forfait il faut prendre, il ne risque pas de se demander ce que ses parents ont fait avec lui sur cette question, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Quant à la question de savoir qu'est-ce que vous faites devant un gamin qui a 14 ans et scotché 4 heures sur Internet, sur YouTube ou World of Warcraft ou je ne sais trop quoi, qui est capable de donner aujourd'hui à des parents autre chose qu'une espèce de « vous êtes démissionnaire, vous laissez votre enfant toute la nuit devant Internet, et alors ?» Et vous feriez quoi ? Je veux dire, est-ce qu'on a des solutions pour ça ? Qu'est-ce qu'on est capable de proposer aux gamins qui passent leurs 4 ou 5 heures par nuit devant Internet et qui arrivent complètement fatigués le matin à l'école avec les jeux jusqu'ici parce qu'ils ont passé leur nuit à jouer en ligne ou à regarder YouTube ? Qui a la solution pour ça ? Et qui s'intéresse à ça, sauf pour dire, les parents, mais après tout, ils n'ont qu'à couper le courant. Donc, la question de l'éducation à la parentalité me paraît absolument fondamentale. Et je suis convaincu que les mouvements d'éducation populaire doivent à cet égard renouer avec leurs origines. Je vous rappelle que l'éducation populaire a été d'abord un mouvement qui a propulsé les universités populaires. Les universités populaires qui, bien sûr, étaient des lieux où on mettait à la disposition des personnes les savoirs les plus savants, mais qui pourraient être aujourd'hui, à côté de cela, des lieux où on aide, sans jugement, sans psychologisation ni culpabilisation, des familles à faire face à des problèmes totalement inédits et sur lesquels elles sont totalement démunies. Parentalité, les médias. Et je suis scandalisé pour ma part que nul ne s'intéresse vraiment. Par exemple, les organisations professionnelles enseignantes ne parlent jamais, quasiment jamais, des médias. Comme si on ne pouvait pas exiger, à minima, que comme en Espagne ou dans d'autres pays, les représentants des familles, des mouvements d'éducation populaire et des enseignants siègent dans le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Est-ce qualité, quand même? Nous avons des responsabilités. Aujourd'hui, les enfants passent plus de temps devant la télévision qu'à l'école, dans leur année civile. Nous ne pouvons pas ignorer cette question. Alors, les enseignants font semblant de ne pas regarder la télévision. En réalité, ils la regardent, ils ne le disent pas. Ce qui est tout à fait autre chose. Mais plus globalement, les adultes que nous sommes ne sont pas, à mon avis, suffisamment sensibilisés à ce qu'on appelle la culture jeune. Par exemple, vous n'écoutez pas assez Skyrock et Fun Radio. Il faut écouter Skyrock et Fun Radio, l'antenne ouverte, à 2h du matin, pour vous rendre compte de l'idéologie qui se diffuse, du machisme, du sexisme, etc., etc. Il faut regarder ce qui se diffuse sur YouTube tous les jours. 1 500 000 vidéos nouvelles sur YouTube tous les jours. Et qu'est-ce qu'il y a sur ces vidéos? Il faut regarder ce qu'il y a sur ces vidéos. Il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui autour de la musique tectonique et de la danse tectonique, avec tous les enjeux autour de ça. Il faut regarder ce qui se passe autour des mangas. Il faut regarder ces éléments-là. Et il faut que les parents et les adultes s'intéressent à cela. Parce que, comme le disait Deligny, dès 1949, l'année de ma naissance, si vous ne vous intéressez pas à ce qui préoccupe vos enfants, ne vous inquiétez pas, les marchands s'en chargeront. Hein? Si vous ne vous intéressez pas à ce qui préoccupe vos enfants, ne vous inquiétez pas, les marchands s'en chargeront. Je pense aussi, dans la même perspective, qu'il faudrait beaucoup investir la question de l'intergénérationnel. Mais je ne vais pas en parler longuement. C'est pour moi une question absolument centrale, la question de l'intergénérationnel, c'est-à-dire du lien entre les générations, y compris s'intéresser du lien entre les jeunes et les seniors, qui me paraît une question absolument fondamentale, et sur laquelle il y a une richesse d'initiatives absolument extraordinaire qu'on peut prendre. Moi, j'ai eu la chance de suivre, dans la région lyonnaise, une initiative tout à fait particulière, maison de retraite, où le directeur décide d'obtenir, pour les pensionnaires qui le veulent, l'achat d'un ordinateur portable. Et évidemment, il en achète 24. Chaque pensionnaire qui a son ordinateur portable, c'est un peu comme une poule qui a trouvé un couteau. Vous imaginez? Et alors, idée absolument géniale, jumelage de la maison de retraite avec deux classes de BEP informatique. Et tuteur pour chaque personne de la maison de retraite par deux élèves de BEP informatique qui vont leur apprendre à se servir d'Internet. Ce qui est en train de se passer là, ça, c'est une opération qui a 6 mois, est extraordinaire, fabuleux en termes de richesse d'échanges intergénérationnels. Et en plus, c'est parfaitement conforme à l'histoire. L'histoire des hommes, ça a toujours été les vieux transmettent le patrimoine, les jeunes transmettent les savoir-faire. Et c'est ça qu'il nous faut reprendre, retravailler, retisser. Les vieux transmettent le patrimoine, les jeunes transmettent le savoir-faire. Et si nous retissons à partir de là, nous retisserons le lien générationnel. Je continue en vitesse, hein, j'étais à ma 4e proposition. 5e, mettre en réseau les initiatives des mouvements pédagogiques et d'éducation populaire. Alors, je ne vais pas parler la langue de bois, excusez-moi, mais je ne sais pas faire. Un des problèmes des mouvements pédagogiques et d'éducation populaire, c'est leur fragmentation. Et un des problèmes, c'est leur rapport quasiment pathologique à la question du leadership. C'est-à-dire à l'idée que, au fond, il vaut mieux se casser la gueule plutôt que d'assumer un leadership encombrant. Bon. Et que Mais c'est une constante historique, ça. C'est une constante historique de l'éducation nouvelle. L'éducation nouvelle ne s'en est sortie que quand elle a réussi à se donner des instances de coordination fortes et des porte-paroles significatives. C'est pour ça que j'avais lutté un moment, Bernard s'en souvient peut-être, pour de permettre à Jean Foucambert de servir un petit peu de relais, etc. Et j'étais scandalisé de la manière dont il a été lâché par un certain nombre d'autres mouvements que je ne citerai pas. Mais peu importe. Je crois qu'il y a une vraie question de créer, de faire prendre la mayonnaise. Et on ne s'opposera pas, je le dis avec beaucoup d'humilité, on ne s'opposera pas à la puissance médiatique de nos adversaires, qui eux n'ont aucun scrupule dans ce domaine, si on n'a qu'à proposer chaque fois un collectif de 17 personnes qui ont besoin de 12 réunions pour se mettre d'accord sur une demi-motion. Mais je le dis avec beaucoup d'amitié, parce que je suis dans le coup. Donc, on a peut-être besoin d'avancer, et bien évidemment avec les jeunes générations. Parce que, et c'est encore un des problèmes de l'éducation populaire et des mouvements pédagogiques aujourd'hui qui a été évoqué, c'est la difficulté à rajeunir les cadres. À la limite, moi je suis venu, et je suis très content que vous m'ayez invité, mais je ne devrais pas être là. Ça devrait être quelqu'un de 40 ans qui soit là. Je ne devrais pas être là. Je suis parti, ça y est, c'est fini. Moi je suis un has-been. Et non mais je ne le dis pas d'une manière... Non mais je le dis réellement, je le dis, il y a un impératif aujourd'hui de l'éducation populaire à faire émerger des leaders chez les jeunes. À faire émerger de vrais leaders chez les jeunes. Bon. Sixièmement, mais je continue, se battre pour la culture pédagogique et pour la mémoire pédagogique. Un des problèmes, c'est l'amnésie pédagogique. Je le disais, deux ou trois d'entre vous étaient à un colloque que nous avions mercredi à Paris sur l'individualisation. J'étais sidéré. Parce qu'aujourd'hui, la question de l'individualisation était posée par des journalistes qui avaient l'air de trouver que c'était une question qui venait d'apparaître depuis 2 ans. Alors que la question de l'individualisation en pédagogie, ça fait 1 siècle et demi qu'elle est traitée, et traitée très sérieusement. Que 1905, Miss Parkhurst, école de Winnetka, plan Dalton, etc. Mais alors, cette amnésie est sidérante. Et elle est d'autant plus sidérante de la part de gens qui se prétendent tenants de la culture et qui oublient notre propre histoire. Et puis, septième et dernier élément, et j'en aurai terminé, j'aurais fait 5 minutes de plus que le temps prévu. Septième et dernier élément, réarticuler service public et association. Je pense que dans ce qui a été dit tout à l'heure, il y a eu de vrais problèmes qui ont été posés, qui pour moi sont fondamentaux. C'est vrai que c'est pas facile pour les associations de servir en permanence de roue de secours à une institution scolaire dont elle entérine par là même les dysfonctionnements. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est d'autant moins facile quand elle est financée parce qu'elle sert de roue de secours à une institution scolaire dont elle entérine les dysfonctionnements. Et c'est vrai que ça, c'est pas... J'ai parfaitement entendu l'idée, il nous en faut plus. Moi, j'applaudis à tout rompre. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça veut dire qu'on n'est pas complètement au clair sur l'idée de service public. Et c'est vrai qu'on n'est peut-être pas complètement au clair sur ce qui avait été demandé dans le manifeste de Pontivy, à savoir que les associations d'éducation populaire soient totalement partie prenante du système public et du service public. C'est-à-dire qu'elles ne soient pas une espèce de courroie accessoire, mais qu'elles y soient dedans, le service public, et qu'elles soient reconnues. À ce titre, d'ailleurs... Je suis choqué, je vous le dis, à la fois en tant que Français, en tant que laïque, en tant que militant pédagogique, de voir que l'enseignement privé a une délégation de service public, mais pas les associations d'éducation populaire. En termes purement juridiques. Je pense qu'il faut retravailler cette question du rapport du service public et de l'éducation populaire. Alors pourquoi il faut la retravailler? Parce que pour moi, ce qui caractérise le service public, c'est que le recours est un interne et pas un externe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Un système libéral est un système dans lequel, quand vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs. Un système public est un système dans lequel, quand vous n'êtes pas content, vous traitez les dysfonctionnements avec les gens pour trouver des solutions à l'intérieur. Autrement dit, le système libéral, c'est le système qui fonctionne sur la base de la concurrence. Vous n'êtes pas content là, allez ailleurs. Vous n'êtes pas content chez Darty, allez chez machin. Vous n'êtes pas content de l'éducation nationale, allez chez Acadomia. Vous n'êtes pas content de la Foeven, allez chez les Franca, etc., etc. Ça, c'est un système de dépeçage du service public. C'est un système qui consiste à dire, quand il y a un dysfonctionnement, on le traite en mettant en concurrence avec d'autres. Or, ce qui caractérise un service public, comme la justice par exemple, c'est que quand il y a un dysfonctionnement, on le traite dedans. Quand vous n'êtes pas content de la justice, vous n'allez pas chercher un juge privé. Et encore, bon, ça dépend, j'espère. Mais le principe de la justice, c'est que quand vous n'êtes pas content, il y a au sein de la justice des recours qui peuvent permettre de régler les problèmes de la justice. Ça veut dire que pour que l'éducation nationale soit un service public, il faut qu'il y ait au sein de l'éducation nationale et pas dehors des outils, des personnes, des lieux, des cadres, des espaces permettant de régler les problèmes qui se posent dans l'éducation nationale. Il faut qu'on arrête de dire aux parents « Vous n'êtes pas content de vos profs, allez voir les mouvements d'éducation populaire ». Il faut que les mouvements d'éducation populaire soient suffisamment associés à l'éducation nationale pour qu'il y ait un problème et on cherche ensemble, mouvement d'éducation populaire et éducation nationale, comment le résoudre, et c'est ensemble qu'on le résout et non pas en concurrent. Alors, je me suis un peu échauffé, excusez-moi. Voilà, cette perspective, qui bien évidemment ne sont que les miennes, hein, et je ne suis ici le porte-parole de personne, mais qui me laisse penser que non seulement la pédagogie et l'éducation populaire ne sont pas ringardes, même si elles sont ringardisées, ou qu'elles sont ringardes au sens que quelqu'un rappelait ce matin, du tisonnier, enfin, le ringard, c'est le tisonnier avec lequel on ranime la flamme, étymologiquement. Hein. Mais l'éducation populaire et la pédagogie sont, me semble-t-il, plus d'actualité que jamais. C'est-à-dire que ce qui a été inventé, pensé par on va dire, les grands ancêtres, les fondateurs, on a évoqué des noms tout au long de la journée, ce qui a été pensé pour des minorités qui en avaient besoin s'impose aujourd'hui quasiment pour tous. Voilà pourquoi nous sommes et nous devons être sur la brèche. C'est que ce qu'a pensé Pestalozzi pour les orphelins de Stans, nous en avons besoin aujourd'hui pour quasiment tous les élèves. Ce qu'a pensé Makarenko pour les délinquants laissés sur le bord de la route par la révolution bolchevique, nous en avons besoin aujourd'hui pour quasiment tous les ados. Non pas parce que tous les ados sont des délinquants, mais parce que Makarenko, qui était quelqu'un qui a eu affaire à des gens particulièrement difficiles, a pu, dans ce cadre-là, inventer des solutions dont nous aurions aujourd'hui intérêt non pas à nous en ressaisir pour les appliquer d'une manière mécanique, mais à nous en inspirer et à créer à partir de là nos propres propositions. Voilà, je m'arrête sur ce point et je vous remercie de votre attention.